famille de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Elle tenait boutique rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris, où elle aimait composer de belles vitrines célèbres à Noël. Elle avait publié un journal d'une antiquaire en plusieurs tomes. Elle affirmait que la pire ennemie de la pauvreté était la radieuse chance. Le timbre de sa voix était à l'unisson de sa passion pour le beau et l'ancien. Sa spécialité était le mobilier du XVIIIe siècle. Tout semblait simple et son public lui était tout acquis. Yvonne de Brémond-Dars donnait dans le cadre de l'Université des Annales une conférence judicieusement intitulée « La femme antiquaire et décoratrice ». Conférence diffusée sur la chaîne nationale le 29 avril 1957.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un grand honneur pour moi de venir vous parler du métier d'antiquaire. C'est le mien. Je l'exerce depuis l'âge de 16 ans. C'est donc avec plaisir et en toute sincérité que je vais essayer de vous décrire la vie réelle du métier, telle qu'elle s'offrit à mes débuts et dans le long de la carrière, avec ses obligations, ses aventures, ses risques et ses joies. Si l'on me demande personnellement comment l'idée me vint de devenir antiquaire, je puis répondre que Versailles, où j'habitais enfant, fut sans aucun doute à l'origine de mon amour pour le passé. Je vivais toutes mes heures libres dans le parc, situé en face de notre maison, rue des réservoirs. Et quand on a appris ces leçons, à l'ombre de la statue de Diane, et sur les marches roses du Trianon, quand on a rêvé près de ces bassins bleuis, où des tritons dorés jouent avec les eaux, il est presque impossible de ne pas admirer, adorer le passé. Avec cela, Monsieur Pierre de Nolac, le conservateur du palais de Versailles, était grand ami de mon père. Il venait souvent à la maison. Et mon Dieu, qu'il était donc gentil avec moi. Grâce à lui, j'apprenais 1000 détails sur la vie privée des enfants royaux et des personnages historiques qui avaient habité dans ce palais dont je connaissais tous les coins. Mais j'étais éblouie, captivée par ces existences royales. Ainsi, le petit dauphin, les princesses, m'étaient devenus pour moi de sortes d'amis intimes. Je croyais les voir revivre dans leur décor familier. Et si un jour, la reine Marie-Antoinette m'était apparue, une rose à la main, s'avançant doucement dans le jardin du roi, je crois bien que cela m'eût semblé tout naturel. Ainsi, à 9 ans, je vivais l'histoire. Durant l'été, j'habitais en Bretagne dans une vieille demeure de famille. Et ma chambre était située au dernier étage, loin de tout et de tous, mais proche des vastes greniers dans lesquels je passais de belles vacances. Glanant parmi la multitude des choses abandonnées, de petits tableaux, des morceaux de tapis aux brillantes couleurs, des reliures armoriées, des objets délicieux, si bien qu'en quelques années, cette chambre devint pour moi comme un véritable petit musée, et c'est sans doute là que pour la première fois, je rêvais d'être antiquaire et décoratrice. Et puis ce fut l'année de mes 15 ans que le hasard m'offrit l'occasion d'une première émotion d'antiquaire avec un premier achat. Je me rappelle, c'était un beau dimanche d'été du mois d'août, alors que me promenant ce jour-là sur un cheval qui n'était pas le mien. Il me sembla que la bête avait grand soif. Mon amour pour les animaux me donna l'audace d'aller demander de l'eau dans une vieille maison qui se trouvait sur la route, un manoir plutôt, qui se trouvait sur la route au fond d'une allée ombragée. Et la dame propriétaire de ce domaine me fit le plus aimable accueil. Et comme si j'étais une grande personne, elle me pria d'entrer au salon pendant que son valet conduisait le cheval vers l'écurie. Il devait être, à peu près 10 heures du matin. Cette dame était seule, elle me fit asseoir auprès d'elle, devant une grande table ronde, encombrée de papiers, de journaux, de photographies, de catalogues. Et devant moi, grand ouvert, j'aperçus un album où se trouvait une centaine de splendides gravures en couleur du XVIIIe siècle. La page de gauche était découpée par moitié, les ciseaux coupables posés tout à côté, sur la table. Et avec beaucoup d'innocence, cette dame m'expliqua que ses trois petites filles, qu'elle jugeait très sages, étaient à la messe. Mais qu'au retour, pour s'amuser, elle s'achèverait de découper toutes les images en couleur de l'album. Oui, devant ce projet désastreux, il ne restait qu'une solution. Essayer d'acheter sur le champ l'album merveilleux avant le retour des petites sauvages, qui se seraient peut-être opposées à cet achat. Car à 15 ans, on ne se permet pas de jouer les moralistes. Et puis je fus soudain, mais possédée, du désir fou d'emporter cet album. Et la petite somme d'argent, qui par miracle se trouvait dans ma poche, venant de la recevoir le matin même pour mon anniversaire, me permit de sauver du vandalisme ces précieuses gravures. Et ce fut en ce dimanche d'été ma première opération d'antiquaire. Et la première étape de ma carrière commença par un grand, grand sacrifice. Il me fallut vendre le cher album de Bretagne. Je l'avais prévu. Mais je me souviendrai toujours de cette boutique, avec son comptoir en chêne luisant, sur lequel je déposais mon trésor. C'était chez une marchande de gravures de la rive gauche, qui avait la vogue du moment. Elle connaissait ma famille, car elle était la voisine et l'amie de Champion, l'éditeur de mon grand-père, qui était historien. Alors avec elle, je n'avais pas à craindre le refus, malgré mon jeune âge. Timidement, je lui confiais mon ambition en lui offrant l'album chéri. Oh, elle me laissait parler sans rien dire, elle ne disait rien, mais je la sentais émue et surprise devant cette collection magnifique. Ses mains tremblaient en tournant les pages. Et puis assez brièvement, sans discuter, elle m'offrit plusieurs billets de 1 000 francs en m'engageant à revenir quand j'aurais fait des découvertes. J'acceptai. Pour ne pas pleurer devant cette dame, je pris congé très vite, il fallait rester courageuse. Et sans perdre de temps, je fis paraître des annonces dans 3 journaux à grand tirage pour demander à acheter des gravures anciennes. Quelques jours après, un volumineux courrier tombait sur mon bureau, rue Saint-Honoré. Je classais les réponses par quartier, afin de me rendre aux adresses indiquées. Je n'avais qu'une crainte, toujours la même, celle de sembler trop jeune. Alors je m'affublais d'un vraisemblable cap, un gros tissu des Pyrénées de couleur violette. Oh, mais il a un vilain violet. Acheté dans un magasin en prévision de ses visites. Je tenais à faire sérieux. Ah, il ne fallait pas être coquet pour oser porter une telle cape. Bon, il est vrai qu'à 16 ans, on s'habille quelquefois bien drôlement, même de nos jours. Et ma première visite d'achat eut lieu à Neuilly. Ma première visite d'achat officielle. Parce que j'avais déjà acheté l'album, mais ça, c'était ma première visite officielle. J'ai une dame peu aimable, qui tenait de son mari défunt 4 belles gravures en couleur de Jeanninet. Oh, je les achetais sans difficulté, car elles semblaient les mépriser en raison de leur sujet trop mythologique. Mais moi, une fois dehors, sur le boulevard d'Argenson, serrant les gravures dans mes bras, oh, je me sentis le cœur en fait, assez fière de cette première acquisition. Mais un peu anxieuse quand même, de savoir si mon achat était bon. Je courus chez ma marchande, et j'étais frémissante en déballant le paquet. Eh bien, le succès dépassa mon souhait. Non seulement les gravures furent jugées superbes, cette dame me les paya en beau prix, mais cette fois, elle m'encouragea chaudement à continuer mes recherches. Et ça, c'était gentil de sa part, car il faut toujours encourager les débutants. Enfin, grâce à l'acharnement, je peux dire, à l'obstination de chaque jour, mon œil s'exerça relativement vite. Je devins capable de juger rapidement de l'authenticité d'une gravure, même encadrée, et le jour vint où, grâce à Dieu, je ne me trompais plus. Ce fut ma marchande qui profita de mes plus belles découvertes. Oh, c'est qu'elle était devenue si gentille avec moi quand j'arrivais en fin d'après-midi avec mon carton rempli de gravures rares. Et je crois bien que j'étais plus sensible aux compliments qu'elle m'adressait qu'aux bénéfices réalisés. Dans le fond de son magasin, j'apercevais souvent un très célèbre collectionneur, Monsieur le ministre du Tasta. Oh, il ne disait rien, il était assis là, mais je savais Après mon départ, il achetait tout chaud mes belles découvertes. Ah, j'étais un fameux petit chasseur d'images dans ce temps-là, passionné pour mon métier. Enfin, c'était déjà un bon début. Oh, ce n'était pas la fortune. Loin de là, puisque cette dame triste et fière, qui se nomme la pauvreté, vint me faire la visite d'usage aux débutants. Mais elle ne resta pas longtemps dans ma maison. S'ennuyait avec moi. J'étais peut-être trop gaie, trop optimiste. Ne parlant d'elle à personne, je semblais même ignorer sa présence. Et l'on sait que la pauvreté ne se plaît qu'avec les faibles, ceux qui ont du chagrin, ou près des étourdis, qui placent tous leurs espoirs dans la corbeille d'une fausse amitié. Enfin, de ceux qui veulent bien pleurer avec elle. Si bien qu'un jour, elle disparut dans ses voiles gris, sur la pointe des pieds. Oh, de temps en temps, elle m'adressait bien quelques invitations auxquelles je ne répondais jamais. Offensée, elle essaya de me taquiner, oh, avec des petites choses, des plaisanteries. Par exemple, en me faisant couper la lumière électrique pendant une semaine ou deux, mais c'était sans importance, car j'allumais des bougies, comme au XVIIIe siècle. Et c'était encore plus joli. Enfin, je n'entendis plus parler d'elle depuis ce jour où elle me rencontra au bras de sa pire ennemie, la radieuse chance, toute vêtue de rose, qui me conduisait en souriant dans une grande entreprise de démolition, avec l'excuse d'y chercher un trumeau. Et là, sous une verrière où il pleuvait, parmi tout un fatras de croûtes qui gisait pêle-mêle sur le sol humide, j'avisais une toile représentant une femme voilée, entourée d'enfants joufflus vêtus de culottes noires. Pressentant une agréable surprise, j'achetais cette toile et le jour même, j'entrepris de la faire nettoyer. À ma grande joie, je vis surgir de leur nuit une Vénus rose et blonde qu'entouraient des amours dans leur complète nudité nacrée. Sans aucun doute, une pudeur stupide avait habillé ces personnages de voiles et de culottes noires. Et ce procédé de repeindre un tableau n'était pas chose nouvelle, non. De tout temps, et pour les causes les plus diverses, les toiles de maître furent camouflées ainsi. En continuant le passionnant nettoyage, j'aperçus dans le coin de la toile, à droite, près des roseaux, une signature. Elle devint lisible, et c'était celle de François Boucher, tout simplement. Ah, cette fois-là, je compris qu'il ne fallait pas décourager ma belle amie la chance. Et je crus bien vendre ce tableau qui me tombait du ciel, car pour la première fois de ma vie, je me trouvais en possession d'une importante somme d'argent que je croyais importante, ignorant que ce tableau valait bien davantage. Mais qu'importe, j'avais un petit magot. Puis à l'horizon, mon rêve brillait déjà, celui d'avoir un magasin à moi. Et j'étais capable de le réaliser. Car ce rêve se trouvait presque à ma porte. La rue Royale a traversé, quelques mètres plus loin, un magasin allait être libre, dont le dernier occupant était un pauvre petit bistrot populaire. Oh, ses murailles étaient délabrées, sa façade pitoyable, mais qu'importe. C'était un magasin, et pour lequel je versais avec joie toutes mes finances disponibles. Ah, j'étais sauvée. J'avais un havre sur l'océan agité de la ville. À mon tour, j'allais devenir spectatrice derrière cette vitre. Avec quelle ardeur j'installais ce petit paradis désiré. Pour toute richesse, oh, j'avais 4 meubles, 4 sièges, quelques gravures, mon rideau de velours rubis et un grand vase en pierre. C'est tout. Avec ce matériel, je composais ma première vitrine en compagnie de fleurs fraîches, de grands lys blancs, autour desquels voltaient avec bonheur mes colombes vivantes qui se croyaient dans un jardin. C'est amusant, vous savez, de composer de belles vitrines. C'est vraiment un entracte charmant dans la vie commerciale. Mais le jour de l'ouverture, toute seule derrière cette vitre, oh, je dois l'avouer, que j'étais très, très émue, presque aussi émue qu'aujourd'hui. Et je pensais, mais qui va entrer? Qui va entrer? Eh bien, le premier client fut un Anglais, le véritable touriste anglais de l'époque, avec le Kodak en bandoulière et la casquette à carreaux. En entrant, il désigna les gravures en couleur qui se trouvaient en vitrine et il me dit tout simplement « Combien ?» C'était six gravures qui représentaient l'histoire de Paul et Virginie. Il fallut lui en dire le prix, tout simplement. Oh, mais je m'imaginais que ce n'était pas suffisant, que dans un magasin, on était obligé de faire une sorte d'article, et je me lançais tout d'un souffle dans l'histoire détaillée des infortunés fiancés, sans omettre aucun détail de la touchante aventure, aucun détail. Cet Anglais m'écoutait, impassible, sans rien dire, très poli. Et quand le récit fut terminé, avec la mort de Virginie, il me dit en anglais, « I do not understand French, but I take them. » Je ne comprends pas le français, mais je les prends. Ouais. Et ayant déposé le prix des gravures sur le coin d'une commode, il les emporta en haut dans un papier, plus rouge que mèche. Enfin, la vie devenait belle. Les matinées étaient consacrées aux achats et tous les après-midi, je restais là, Faubourg Saint-Honoré, dans mon étroit domaine rempli de fleurs avec mes chiens et mes colombes, me consacrant uniquement à mon métier. Lui seul comptait. Je n'ai pas honte d'avouer, n'avoir même jamais connu le cinéma muet de ce temps-là, n'ayant vraiment ni le désir ni le temps de m'occuper d'autre chose. Car dans ce métier d'antiquaire, voyez-vous, il ne faut jamais cesser de s'instruire pour acquérir des connaissances valables. Mais je fus bien récompensée, car les clients ne tardèrent pas à venir, et les premiers furent des habitants du Nord, si amoureux de leurs intérieurs. Et ces derniers m'encouragèrent beaucoup, en me témoignant une grande confiance, et je leur garde encore toute ma reconnaissance, car ils furent bien gentils. Et par la suite vinrent des offres alors d'installation, n'est-ce pas, de villas, de châteaux même, d'appartements, qui me donnèrent le goût d'adjoindre à mon métier d'antiquaire celui de décoratrice. Et c'est juste à ce moment que la chance revint pour m'offrir le contenu de certaines caisses mystérieuses. Un matin, une dame inconnue m'appela d'urgence rue Saint-Florentin. Il s'agissait de débarrasser toute une cave de nombreuses caisses fermées. « Ce sont des boiseries, » me dit-elle. « Ces caisses n'ont pas été ouvertes depuis 50 années, en raison d'un long procès de famille. » Il n'y avait pas à discuter. C'était à prendre ou à laisser. Il fallait les emmener le jour même et telles quelles. Sans rien voir, prenant les risques, j'achetais. Et je me trouvais en présence de tout ce lot de caisses en bois blanc qui sentaient le moisi. Mais comment exprimer mon émoi devant chaque planche soulevée? Sous la paille aplatie et humide, des morceaux de dorure apparaissaient. Un petit visage de déesse me sourit pour me récompenser de mon audace. Puis vinrent de grands miroirs qui reflétaient ma joie. Ainsi une boiserie complète a retrouvé sa place sur les murs de mon magasin. Elle m'apporte toujours son luxe chaud, ses ors évanouis, pour m'aider de continuer à croire à la chance. Oui, vraiment, c'est un métier privilégié. On peut garder près de soi de belles choses qu'on ne pourrait pas toujours s'offrir autrement. C'est ainsi qu'il m'arriva de garder un ravissant petit bureau Louis XV en bois de violette que j'avais acheté à Auteuil dans un petit hôtel particulier au fond d'un jardin plein de roses. La charmante vieille dame qui me le cédait possédait beaucoup d'autres meubles en meilleur état que celui-ci, dont la marqueterie s'écaillait. Mais 6 mois plus tard, cette dame revint me voir et me confia sa triste histoire. Elle m'apprit que son mari venait de mourir subitement dans une clinique. Et elle m'apprit aussi qu'il n'avait été son époux que devant Dieu, malgré 50 années de vie commune. cette imprudente situation fit qu'elle dut quitter sa maison, ses jolis meubles, abandonner tout ce qu'elle croyait posséder au profit de lointains cousins qui surgirent réclamant l'héritage. Et c'est en pleurant qu'elle me confia sa nouvelle adresse dans une institution de la rive gauche, une institution religieuse qui recueillait les dames pauvres. Je ne savais quoi dire à cette chère vieille dame pour la consoler. J'étais bouleversée, vraiment. Je ne savais quoi lui dire. Je pris son adresse et puis je l'embrassai, c'est tout. 2 mois après, un dimanche, je pensais que je devais envoyer le petit bureau acheté chez elle à la réparation, car il en avait grand besoin, il s'écaillait de plus en plus. Et tout en le débarrassant, par hasard, ma main rencontra un déclic qui fit surgir un tiroir secret. Et derrière ce tiroir, en profondeur, une cachette, au fond de laquelle se trouvait un papier vert, plié en 4. Oh, je le revois toujours, ce papier. Ce papier, c'était un testament du pseudo-mari en faveur de sa chère compagne. Oh, j'ai tout fait de joie, vous le devinez. Le cœur battant d'espoir, je courus au couvent trouver la pauvre dame et entre les doigts ridés que crispait l'espérance, je remis le testament. Elle resta stupéfaite, ne sut rien me dire, mais elle m'embrassa très fort. Et ses larmes furent ma récompense. Elle retrouva sa petite maison d'Auteuil et elle acheva doucement son existence au milieu de ses souvenirs et de ses roses. On pénètre malgré soi dans le secret de beaucoup d'existences. On entre en relation avec tous les milieux sociaux. On connaît les plus grands de ce monde. Et il est certain que ce métier prête aux confidences. Les gens expliquent l'origine d'une chose. Ils formulent des souhaits. Ils se racontent. On atteint sans le vouloir le cœur de la vie du foyer avec le cœur des êtres. Ainsi, j'ai vécu dernièrement, en plein Paris, l'aventure la plus extraordinaire, la plus passionnante de toute ma vie d'antiquaire. Elle m'a offert des joies si rares, si inoubliable, que pour le plaisir de la revivre, je l'écris toute chaude encore de mes impressions, sans omettre aucun détail. Je l'ai écrite, oh, comme un reportage, avec naturel, en me souvenant avec émotion des si précieux conseils que notre grande et si regrettée Yvonne Sarcey voulut bien me donner jadis. Imaginez que cette grande dame si occupée prenait la peine de lire les petites nouvelles que j'écrivais alors pour un journal breton dans la page enfantine, et qu'elle trouvait le temps de les commenter en y ajoutant des billets adorables écrits de sa main, pleins de conseils, de remarques, d'encouragements. Et dans l'inconscience de ma jeunesse, je me permettais de l'appeler tout simplement Grande Yvonne en signant La Petite Yvonne. Et c'est depuis, c'est maintenant que je suis confuse devant ces chères filles ici présentes et que je m'en excuse. Chère grande Yvonne Sarcey, peut-être auriez-vous aimé cette récente aventure que je dois à mon métier d'antiquaire. Pensez que du jour au lendemain, je me suis trouvée à la tête d'une fabuleuse collection de trésors anciens d'une valeur inestimable qui était restée cachée dans les 5 étages d'un immeuble de la rue Lafayette, un immeuble des plus banals, caché par un vieux collectionneur très original qui venait de mourir à l'âge de 90 ans. Imaginez que dans les baignoires des salles de bain désaffectées, sous une épaisse couche de poussière, j'ai découvert des toiles authentiques de Corot, de Sisley, de Fragonard, que dans tous les appartements, les meubles, les sièges, les plus belles choses du monde était amoncelé jusqu'au plafond à la manière des garde-meubles. Car cet ardent collectionneur, riche exportateur de son métier, achetait sans relâche et tous les jours, et depuis 70 années, les plus belles choses qui soient au monde, sans jamais rien revendre. Son frère, Monsieur Gontran, un colonial distingué, également âgé, fort riche et très bon, quitta son île et vint exprès à Paris au sujet de cet héritage. Et c'est lui, Monsieur Gontran, qui m'a remis la clé de cet immeuble, avec le droit de distribuer ses trésors à ses nièces, cinq jeunes femmes inconnues. Et mon rôle fut celui d'une donatrice. Ah, le plus beau rôle qui soit au monde. Celui de partager, selon mon bon vouloir, ce fantastique héritage en fonction du cœur et de la mentalité de chacune des héritières, en considérant leur bonheur sans tenir compte de la valeur des choses. Et en surplus de la fabuleuse collection, il existait un secret touchant et impartageable qu'il fallait remettre à une seule des cinq héritières, celle jugée la plus digne de le recevoir. Tel était le vœu du défunt. Et je puis dire que jamais le verbe choisir ne m'a paru si important. Alors, pour essayer d'être juste, il m'a fallu surprendre Gisèle, Martine, Rosine, Donatienne et Marie-Ange dans leur vie privée. Les cinq nièces, n'est-ce pas, toutes jolies, mais si différentes. Il a fallu que je fasse cela pour surprendre leur caractère secret. Et aussi, j'ai pu constater vraiment l'analogie qui existe entre les êtres et les styles. Mais n'est-ce pas un conte de fées moderne merveilleux, magnifique, et c'est arrivé en plein Paris, le titre de mon livre. Mais les personnages n'y sont désignés que par leur seul prénom, car ils existent. Eux aussi vivent en plein Paris. Et ainsi, de passionnantes aventures se succèdent au long de la carrière. On n'en finirait pas de les raconter. On n'en finirait pas. Alors, en conclusion, on peut conseiller le métier d'antiquaire à ceux qui ont vraiment la vocation et dont le but n'est pas de faire fortune, car cette unique ambition stopperait les élans et la chance. Mais je puis affirmer que les joies ardentes qui se déroulent au fil des jours, qui se renouvellent tous les jours, dépassent de loin les satisfactions financières et tous les plaisirs extérieurs, car ce métier touche à la passion. Ce métier, c'est le plus beau du monde. C'est le bonheur dans la liberté. C'est le mien et c'est toute ma vie. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Merci à tous.
C'était les grandes conférences « La femme antiquaire et décoratrice » par Yvonne de Brémond-Dars. Conférence donnée dans le cadre de l'Université des Annales et diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 29 avril 1957. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».